Votre Excellence, Mesdames, Messieurs, chers amis, la dernière fois, j'ai pensé ouvrir cette quatrième et dernière séance par la lecture d'un poème. Mais je me suis rendu compte que ce serait précipiter les choses, car avant d'arriver au poème promis, mettant en jeu contingence et cheminement, je voudrais en effet ajouter, comme une longue note en bas de page, voire comme un appendice, quelques observations sur l'itinéraire de la vieille grue, si prudente qu'elle choisit un chemin philosophique et plus sûr. Cette vieille grue que nous avons rencontrée chez Lautréamont la dernière fois. Après quoi, je pourrais commencer la séance d'aujourd'hui et présenter une recherche à laquelle j'ai fait allusion au cours de la deuxième séance, en disant ceci. Je pense que le mot « songlines », pour moi, évoquait une immense ligne d'écriture, un immense stichos, étant donné que j'ai travaillé sur l'écriture et la lecture pendant ces années. Fin de la citation. Le travail de recherche... Ce travail de recherche m'a amené vers la figure d'anisériste sirène qui joue un rôle presque proverbial dans le savoir des Grecs sur l'écriture et la lecture. Il mériterait même, je pense, la désignation de héros de la ligne écrite. Avant de nous occuper de lui, commençons par les grues. Et plus précisément, par le cri mélancolique, comme le dira Lautréamont, de la grue, signe du début des labours en Grèce ancienne, montrant aux paysans d'Hésiode que la saison humide est arrivée et que le cycle du grain recommence. Moment absolument capital de l'année, indiqué également par le coucher des Pléiades au début de novembre. Comment établir la fiche signalétique de la grue? De ma bibliographie sommaire, je citerai en particulier Marcel Détienne, L'écriture d'Orphée, de 1989, premier chapitre, La grue et le labyrinthe, référence incontournable, dirais-je. Parmi les traits pertinents de cet oiseau migrateur, appelé Geranos en grec, Aristote met en relief sa capacité de relier les deux bouts de la terre. C'est dans l'histoire des animaux. Par ce qui ressemble à une immense songlines, la grue vole de l'extrême nord jusqu'à l'extrême sud, des plaines de la Scythie jusqu'aux sources du Nil en Afrique. Pendant sa migration, elle passe notamment au-dessus de la Béotie d'Hésiode, mais également, en continuant vers le sud, au-dessus de l'Isthme, avec Mégare, où le poète Théognis a enregistré son cri dans des vers qui le mettent en rapport, eux aussi, avec le début des labours. Leur cri rappelle au poète, chassé de sa patrie, que c'est désormais quelqu'un d'autre qui va labourer ses terres, d'où sa mélancolie. En fait, à l'ouest de Mégare se trouve une montagne qui traverse l'isthme et qui s'appelle précisément Geranaia, monte aux grues si vous voulez. Plus au sud, à Corinthe, et plus précisément au-dessus du théâtre de Corinthe, les grues passaient également, ainsi que nous l'apprenons dans la légende sur le meurtre du poète Ibicos. Or, dans la toponymie géranique, qui constitue en effet une song map, carte chantée à la manière aborigène, on trouve également, encore plus au sud, dans le Péloponnèse, et plus précisément sur la côte sud de la Messénie, dans le golfe messénien, la petite ville Geranaia, célèbre du fait que le héros homérique Nestor est censé y avoir passé sa jeunesse. Le séjour de Nestor à Gerenia lui a valu l'épithète Gerenios dans l'épopée. Il est vrai que l'on n'associe pas normalement Gerenia avec les grues, mais l'existence du mot Geren, féminin de Geranos selon Hésychios, tend à corroborer l'hypothèse d'une telle association. Plus important, Gerenia s'appelait Enope avant de s'appeler Gerenia, selon Pausanias, et Enope est le mot qui, avec Klangé, qualifie le cri des Troyens comparé aux grues au début du chant 3 de l'Iliade. Si Nestor est qualifié de Gerenios, il se peut donc que cette épithète soit non seulement une indication géographique condensant l'histoire de l'adolescence du héros, mais qu'elle le mette également en rapport avec les grues, lien en tout cas pertinent pour Laotréamon, pour qui l'épithète Gerenios chez Homère a sans doute renvoyé à l'oiseau et non pas à la ville. Rappelons d'abord avec Douglas Frame et Greg Runage que le nom Nestor est dérivé de Neomai qui signifie « je retourne ». Nestor signifierait donc « celui qui retourne » ou peut-être « celui qui sert revenir ». Mais le retour de Nestor ne concerne pas tellement l'espace géographique, bien qu'il soit revenu sain et sauf de la guerre de Troie. En latiniste, je dirais que sa longévité proverbiale fait qu'il apparaît comme l'incarnation du séculum. De même que la vieille grue chez Laotréamon, dont le cou dégarni est contemporain de trois générations de grues. Nestor a régné sur trois générations d'hommes. Il s'est en quelque sorte retourné au point de départ du siècle nouveau, après avoir traversé l'ancien. Il sait revenir au début. En tout cas, Nestor est celui qui renoue les points extrêmes du temps humain. Il fait pour le temps ce que les grues font pour l'espace. S'il est Gerenios, c'est donc non seulement parce qu'il a passé sa jeunesse à Gerenia en Messénie, à un endroit qui vraisemblablement voyait les grues passer pendant leur migration vers l'Afrique, prenant de l'élan avant de se lancer dans l'espace immense de la mer sur ce qu'il faut appeler l'avant-dernière étape d'une songline hors pair. L'implication pour les vers d'Hésiode est évidente. Si le passage des grues est ressenti avec une telle force au moment où l'on commence le cycle des labours, c'est que leur capacité à renouer les extrêmes apparaît comme pertinente au moment où le paysan doit renouer la fin de l'année agraire avec son début, le sec avec l'humide, le vide avec le plein, la mort avec la fécondation et la vie. Un fragment d'Alcméon pose bien le problème. Ce qui fait que les hommes meurent, c'est qu'il ne leur est pas possible de joindre le commencement et la fin. Essayons de corroborer cette hypothèse par un autre biais. Chez Athénée, livre 9, nous apprenons que la grue, autrefois, fut une femme tenue en grand honneur chez les Pygmées. Cette femme s'appelait Gerana. Les citoyens l'honoraient comme une déesse. Elle-même n'avait que du mépris pour les dieux, en particulier pour Héra et Artémis. Fâchée, Héra la transforma en une grue. Les mêmes Pygmées qui auparavant avaient honoré Gerana se mirent alors à haïr la grue. Or, de cette Gerana et de son époux Nicodamas, naquit, fait surprenant, la tortue terrestre. Comment comprendre cette filiation entre la tortue et la grue? Quelle est la logique de cette naissance surprenante? Dans l'espace géographique, la grue est l'oiseau qui relie les deux extrêmes, le nord et le sud. Or, en ce qui concerne la tortue, quelque chose d'analogue se produit. Commençons par le nom français de la bête, tortue. Selon les dictionnaires, tortue viendrait du latin tartaruca, mot derrière lequel se profile le grec tartaruchos, celle qui tient le tartare ou bien celle qui se tient dans le tartare. Elle a donc un lien constitutif avec le monde d'en bas. Effectivement, la tortue naît dans la terre. Elle enterre non pas ses morts, mais ses œufs dans la terre. D'où les petites tortues remontent, après l'éclosion des œufs, auprès des vivants. Et ce n'est pas tout. La tortue hiberne sous terre. Elle descend dans le monde souterrain où elle passe une longue période de l'année dans un sommeil proche de la mort, mais dont elle va éventuellement sortir au mois de mars ou d'avril. Pour les Grecs, la carapace de la tortue n'est pas la boîte osseuse couverte de plaques cornées qu'elle est pour nous. Pour les Grecs, la carapace de la tortue est de pierre, lithos. D'une certaine façon, la tortue habite donc une maison de pierre qui n'est autre que sa propre pierre tombale. La tortue est un être vivant qui habite la pierre morte funéraire. Sensible à cette existence sur la frontière entre vie et mort, Aristote écrit « Parmi les animaux qui ont du sang, tous ceux qui ne sont pas très vivants vivent longtemps après l'ablation du cœur, par exemple les tortues. Même elles se déplacent sur leurs jambes surmontées de leur carapace. » Il n'est pas lieu ici de développer la fiche d'identité symbolique de la tortue. Ce que j'ai en tête, vous l'avez sans doute deviné. Si la mythologie peut associer la grue et la tortue de façon généalogique, c'est parce que la tortue renoue, autant que la grue, deux extrêmes. Dans son corps, par son mode de vie, la tortue renoue la vie et la mort, dans le sens que vivante, elle habite une pierre. Elle habite même sous une pierre, sous sa propre pierre funéraire. Et qu'elle sait retourner de cet état de presque mort qu'est l'hibernation. Si la grue renoue deux points extrêmes dans l'espace géographique horizontal, la tortue renoue donc deux points extrêmes sur un axe vertical. La pertinence de ces données pour la création poétique est évidente du moment qu'on se rappelle que l'enfant Hermès fabrique la première lyre d'une carapace de tortue et que cet instrument deviendra, entre les mains d'Orphée, l'instrument du retour du monde d'en bas. Ainsi, la mythologie grecque installe, dans la création poétique, l'horizontalité de la migration des grues comme l'axe qui croisera la verticalité caractérisant la tortue et par la suite la lyre, sans laquelle les âmes ne peuvent pas remonter, pour citer Varron, cher au professeur Scheid. Que l'Otréabon ait identifié sa vieille grue au roi Nestor de l'Iliade me paraît évident. D'autant plus que Nestor est aussi prudent que les grues d'Aristote et de l'Otréamon. Mais l'association va peut-être plus loin. Elle va jusqu'à éclairer la multiple apostrophe « vieil océan » au chant de Maldoror, premier chant. puisque les grues sont explicitement associées à l'océan au début du chant 3 de l'Iliade, que Laotréamon a vraisemblablement eu devant lui en écrivant. Laissons là les grues et tournons-nous, compromis, vers la figure d'Anicéris de Cyrène, héros de la ligne écrite. Son histoire commence à Syracuse. S'étant rendu en Sicile en 387 avant notre ère, afin d'y admirer le volcan de l'Etna, à en croire Diogène Laërce, livre 3, Platon devint l'intime du tyran Denis le Ier. Or, au cours de leurs entretiens sur la tyrannie, le maître de Syracuse supporta si mal les remarques du philosophe qu'il finit par vouloir le mettre à mort. Grâce à l'intervention de Dion et d'Aristomène, platonisant de la première heure, le tyran changea pourtant d'avis et donna de l'instruction au lacédémonien Polys, de passage à Syracuse, de vendre le philosophe comme esclave. Polys amena donc celui-ci à Égine, le mit aux enchères et le vendit à Anicéris. De cette manière, Platon put retourner chez ses amis athéniens qui s'empressèrent de rembourser Anicéris. Celui-ci préféra pourtant décliner le remboursement, affirmant que le fait de subvenir aux besoins du grand philosophe n'était pas un privilège des Athéniens. Et c'est ainsi qu'Anicéris acheta, pour Platon, le petit enclos qui se trouve dans le parc de l'Académie, selon Diogène Laërce, livre 3. Dans la tradition sur la fondation de l'Académie, Anicéris de Cyrène joue donc un rôle de premier plan. C'est grâce à lui que Platon put acquérir le terrain nécessaire à son projet institutionnel. En effet, l'Académie, au sens restreint du terme, fut fondée peu après, peut-être déjà en 387. Lorsque plus tard, le même Anicéris y revint, on l'accueillit sans doute avec le respect dû à un donateur généreux, bien que le but de la visite ne fût pas philosophique. Écoutons Élien, Histoire variée, livre 2, chapitre 27. Anicéris de Cyrène se targuait de sa maîtrise des chevaux et de sa façon de conduire les chars. Une fois, il voulut même faire une démonstration de son art devant Platon. Il attela donc son char et fit de nombreux tours dans l'Académie, en observant si exactement la ligne de parcours qu'il ne sortit jamais des traces, mais les suivit toujours. Comme il est naturel, tous les autres furent époustouflés. Seul Platon critiqua son zèle excessif en disant « Il est impossible qu'un homme qui, de cette manière, dépense autant d'énergie mentale pour des choses aussi futiles et nulles, soit capable de s'intéresser aux choses qui importent. Car si sa pensée est entièrement prise en charge par ces choses-là, il méprisera inévitablement ce qui est vraiment digne d'admiration. » Voilà le donateur de l'Académie sèchement remis à sa place par le philosophe. Ce n'est pas que Platon soit particulièrement hostile à l'art dont Anicéris est si fier. Le lecteur du Phèdre se souvient de la place qu'occupe dans le grand discours de Socrate l'image de l'attelage. La maîtrise d'un char et de ses chevaux attelés peut servir de figure pour la recherche la plus noble concernant la nature de l'âme. Mais de même qu'il affirme dans l'exposé du politique, sur l'art du roi tisserand, que le tissage n'a pas d'intérêt en lui-même, Platon est comme prédisposé à disqualifier l'intérêt pour la maîtrise des chevaux manifesté par Anicéris. Pour toute sa valeur métaphorique, la hypéia n'a pas d'intérêt en elle-même. Si, d'une certaine manière, la philosophie est une hypéia sublime, et cela depuis Parménide, n'est-ce pas? Le philosophe n'est pas pour autant un orige. Même procédé pour l'artisan. Méprisant l'activité artisanale, Platon a néanmoins recours à la figure de l'artisan, au démiurge, dans la cosmologie du Timée. Et la célèbre écriture dans l'âme, seule écriture digne de notre admiration, selon le Phèdre, n'est autre que la valorisation d'une écriture ou figurée. Si l'écriture au sens courant pose problème aux philosophes, la métaphore de l'écriture est retenue comme l'une des figures principales de l'enseignement socratique. Il n'est pas besoin de souligner l'importance dans la pensée de Platon de l'écriture et de la lecture. Tout lecteur du Politique ou du Phèdre sait à quel point Platon est soucieux de préciser la nature des signes écrits, dont il dépend, ne serait-ce que pour l'écriture de ses propres dialogues, et dont il doit se distancier en même temps, craignant, non sans raison, les effets de la dérive de ses écrits, bientôt séparés de leur auteur mortel, désormais incapable de leur porter assistance. L'écriture, en effet, n'est qu'un pis-aller dont il faut se méfier, par exemple en brûlant une lettre aussitôt qu'on l'a lue et comprise, pour qu'elle ne tombe pas en de mauvaises mains. D'une certaine manière, ce n'est pourtant pas tellement l'écriture qui est dangereuse, mais la facilité avec laquelle elle peut devenir un fétiche. Un passage dans le Politique montre bien la façon dont Platon envisage ce fétichisme de l'écrit. Un médecin, prêt à partir en voyage, y explique l'étranger, peut avoir raison d'écrire des aides-mémoires à l'intention de ses patients. Or, si le même médecin revient plus tôt que prévu et que les conditions auxquelles les malades sont exposés ont changé brusquement, il aurait tort de s'obstiner à reprendre à la lettre ses propres prescriptions. Au contraire, c'est maintenant à lui de se substituer à ses instructions écrites, périmées, et d'en donner de nouvelles, répondant aux exigences de la situation. Donner une quelconque primauté aux instructions écrites dans un cas pareil serait manquer à son devoir de médecin. Ce serait céder à une solution de facilité. Il serait ridicule que, comme le vulgaire, tu retinses seulement ce qui a été une fois écrit ou dit, dira Artemidore dans la clé des songes. Et il y a d'autres auteurs qui sont du même avis. Et c'est contre la tentation de céder de cette manière, de céder au fétiche écrit, que Platon se veut vigilant. Un passage souvent cité du Phèdre par Derrida aussi bien que Marshall McLuhan précise cette idée de façon particulièrement instructive. Ce qu'il y a de terrible, en effet, je pense, dans l'écriture, c'est aussi, Phèdre, qu'elle ait véritablement tant de ressemblance avec la peinture. Et de fait, les êtres qu'enfantent celles-ci font figure d'êtres vivants. mais qu'on leur pose quelques questions. Pleins de dignité, ils se taisent. Il en est de même aussi pour les écrits. On croirait que de la pensée anime ce qu'ils disent. Mais qu'on leur adresse la parole avec l'intention de s'éclairer sur un de leurs dires, c'est une chose unique qu'ils se contentent de signifier, la même toujours. Voilà pourquoi, selon Socrate, on est tenté de faire confiance aux signes écrits, ressemblant aux êtres vivants et parlant avec autorité. Voilà aussi pourquoi on aura tort de céder à la tentation de les croire animés, dotés d'une intériorité. À peu près un siècle avant Platon, un certain Andron, fils d'Antiphanès, dédia une statuette de bronze sur l'acropole d'Athènes, statuette qui, au contraire, se vante de sa capacité de dire et de redire exactement la même chose aux passants. Et je cite, « À tout homme qui me le demande, je réponds identiquement qu'Andron, fils d'Antiphanès, me dédia comme dîme. » Si Platon et l'auteur de cet épigramme sont d'accord pour affirmer que l'écriture répète la même chose à l'infini, ils envisagent donc cette répétition de deux manières absolument opposées. Pour Platon, l'incapacité de répondre à de nouvelles questions constitue la faiblesse même de l'écriture, tandis que pour l'auteur de l'épigramme, ce caractère inflexible et d'une certaine façon égalitaire de la parole écrite est cela même qui va assurer la renommée du dédicant. L'opposition entre Platon et l'auteur de l'épigramme d'Andron n'est en effet pas sans nous faire penser à celle qui est mise en scène par Élien dans l'anecdote sur Anicéris de Cyrène. Dans les deux cas, c'est la répétition exacte qui est au centre de l'attention. Dans les deux cas, il y a deux réactions inverses vis-à-vis de cette répétition. Pour Platon, la répétition rendue possible par l'écriture, à travers un nombre théoriquement infini de lectures identiques, est aussi exaspérante que celle dont Anicéris fait preuve en observant si exactement la ligne de parcours qu'il ne sortit jamais des traces, mais les suivit toujours. Chez lui, le fétichisme de la trace écrite provoque la même réaction que le fétichisme des ornières manifesté par Anicéris. Or, l'anecdote racontée par Élien se retrouve chez Lucien de Samosate, dans une version qui, à cause de son contexte, justifie et confirme le rapprochement de l'anecdote au passage du Phèdre. Il s'agit de l'éloge de Démosthène de Lucien, et peu importe si Lucien en est vraiment l'auteur ou non. De toute façon, l'éloge met en scène deux interlocuteurs qui, un jour d'automne, peu avant midi, se rencontrent en promenade et décident de faire chemin ensemble pour discuter. L'un, un poète nommé Tersagoras, a préparé un éloge d'Homère à l'occasion de l'anniversaire de celui-ci. L'autre, le narrateur, voudrait en faire autant pour Démosthène. En effet, la première moitié de l'éloge est consacrée surtout aux propos de Tersagoras, qui se révèle être non seulement un lecteur énergique de ses propres vers, mais encore un grand connaisseur de la biographie de Démosthène. En tant que tel, il se transforme en véritable conseiller de son ami rhétoricien, le narrateur. Pourtant, Celui-ci fait le difficile en affirmant qu'il est parfaitement au courant de tous les lieux communs concernant Démosthène que Tersagoras lui a présentés. Au contraire, pour sa louange du grand orateur, il voudrait sortir des sentiers battus. On le voit, l'éloge de Démosthène a plusieurs traits en commun avec le Phèdre de Platon. D'abord, dans un cas comme dans l'autre, deux interlocuteurs qui se promènent le matin se rencontrent par hasard tout au début du texte. Ensuite, c'est la lecture qui va jouer un rôle central, pour l'un comme pour l'autre. Finalement, la figure de l'attelage apparaît au milieu exact du texte, que ce soit dans le Phèdre ou dans l'éloge. Et comme pour signaler sa dette au dialogue platonicien, l'auteur de l'éloge cite effectivement, au premier paragraphe, la première phrase du Phèdre, « Poide kai poten », littéralement « Où vas-tu comme ça et d'où viens-tu ?» Comme la suite le montrera, ce clin d'œil situe d'emblée l'éloge dans une problématique qui, malgré les différences, ne peut que rappeler celle du Phèdre. Arrivé près du milieu de l'éloge, chapitre 22, le narrateur finit par dire que son interlocuteur bavard s'est comporté comme un médecin qui, incapable d'établir le bon diagnostic, se trompe sur le membre à soigner. En fait, Tersagoras a essayé de l'aider comme s'il avait devant lui un débutant en rhétorique, ce qui est nullement le cas. Pour cette raison, les remèdes proposés n'ont apporté aucune guérison. Sur quoi Tersagoras répond : Mais c'est cela le remède. Un remède ressemble à un chemin. Le plus familier est celui qui inspire le plus de confiance. L'image du chemin ou du parcours apparaît enfin déjà au chapitre 10 et plutôt dans le chapitre 22. Voici la réponse du narrateur. Je me suis proposé le chemin aux antipodes de celui que, selon la tradition, Anicéris de Cyrène a emprunté afin de gagner l'admiration de Platon et de ses compagnons. Il fit une démonstration de l'art de l'aurige tel qu'on le pratique à Cyrène, faisant un tour après l'autre dans le parc de l'Académie en suivant les traces de ses propres roues de façon à laisser au sol des empreintes comme celles d'un seul parcours. Mon projet, au contraire, vise le but opposé, à savoir celui d'éviter les traces des roues, bien que cela soit plutôt difficile, je crois, de quitter les sentiers battus et d'ouvrir de nouveaux chemins. Hodus. Fin de la citation. Maintenant, c'est à Tersagoras de jouer. Les deux amis s'installent et le poète peut finalement commencer la lecture de ses vers en l'honneur d'Homère. Tout d'un coup, il s'interrompt pour annoncer que son ami a mérité un akroatikon, une rétribution d'auditeur, pour l'avoir écouté si attentivement. Et en quoi va consister cette rétribution ? Tersagoras explique. Après avoir lu, avec un plaisir extraordinaire, les cahiers macédoniens sur la maison royale, rien n'a pu m'empêcher de me procurer le livre. Je viens de me rappeler que je l'ai à la maison. Il décrit non seulement les activités d'Antipater chez lui, il s'agit du général de Philippe II, mais encore les relations de celui-ci avec Démosthène. Sans doute, tu écouteras tout cela avec le plus grand intérêt. Là-dessus, Tersagoras reprend sa lecture de poésie, à la fin de laquelle les deux amis se rendent à sa maison. Le narrateur reçoit son livre et s'en va. Et voici ce qu'il nous en dit, au chapitre 27. Maintenant que je l'ai lu, j'ai décidé de ne rien changer. Et je vous le lirai en suivant ses propres mots et expressions. Car l'honneur d'Asclépios n'est pas moins grand si le péant qu'on chante n'est pas l'œuvre de ceux qui lui rendent un culte, mais d'Isodémos, de Trézène ou de Sophocle. Et si l'on a cessé d'écrire des comédies et des tragédies pour Dionysos, les pièces anciennes apportent toujours autant de faveur à ceux qui les produisent pour la simple raison qu'elles sont censées avoir plu aux dieux. Sur quoi le narrateur, après avoir brièvement introduit les scènes qui vont suivre, laisse la parole au livre lui-même, qui la gardera jusqu'à la fin. En d'autres termes, la deuxième moitié de l'éloge de Démosthène consiste en une longue citation ininterrompue, en une longue lecture, simplement. Le narrateur, qui au départ s'est déclaré hostile à la façon de faire d'un Anicéris et qui s'est rangé du côté de Platon, se retrouve ainsi finalement sur les traces écrites d'autrui, sur un parcours préexistant qu'il suivra à la lettre sans rien changer. Sa volonté de frayer un chemin a donc cédé à la facilité d'une répétition pure. Dans les cahiers macédoniens, tout a été dit, semble-t-il, il n'y a rien à ajouter, il n'y a qu'à lire. Après tout, on continue à relire et à redire des poèmes anciens dans le culte, pour le plus grand plaisir des dieux. En d'autres termes, notre narrateur se transforme en simple lecteur, en instrument vocal, répétant scrupuleusement les mots d'autrui. Lisant, il avance sur les traces alphabétiques, sur les mots déjà alignés en écriture, comme le char d'Anicéris le fait sur les traces déjà en place. À première vue, cette volte-face soudaine, paradoxale, est susceptible de rendre perplexe, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'elle est d'une ambiguïté vertigineuse. Car, ainsi qu'on l'aura deviné, les cahiers consacrés à la famille royale macédonienne sont une pure invention par l'auteur de l'éloge lui-même. Au moment exact où il semble abandonner son projet d'innovateur et se ranger du côté de Tersagoras, visiteur infatigable des lieux communs, il entreprend en réalité un voyage inédit. Il avance sur un chemin nouveau, pressentant son propre ouvrage comme un document venu d'ailleurs de la bibliothèque de Tersagoras. Il semble vouloir plaire à la fois aux amis des sentiers battus, ravis de pouvoir combler une lacune dans leur savoir bibliographique, et aux partisans de l'innovation qui, eux, bien entendu, comprendront qu'il s'agit d'un livre apocryphe, fabriqué ad hoc. Que l'éloge de Démosthène soit lui-même apocryphe ou non. Une telle astuce ne serait certainement pas indigne de Lucien, qui appartient d'ailleurs, à côté de Swift et de Voltaire, au panthéon littéraire très exclusif de Valentino Taiken, dont il a été question la dernière fois. Cependant, pour ne pas laisser le dernier mot à Platon, indigné devant les traces parfaites d'Anicéris, je voudrais maintenant rappeler deux itinéraires rituels bien connus, mais qui sont très évocateurs d'une certaine manière grecque de penser non pas le chemin du récit au sens d'Homère, mais le récit du chemin à la manière des songlines aborigènes. Cette transition de l'étude de la ligne d'écriture suivie par le lecteur au cheminement rituel est pourtant moins abrupte que nous avons tendance à le penser. Car en Grèce ancienne, la lecture prend d'abord et avant tout une forme rituelle quand les lettres alignées guident la voix du lecteur dans l'évocation du défunt, dans la lecture de l'inscription funéraire. Autrement dit, la lecture la plus ancienne n'est autre qu'un rite, un acte religieux, faisant résonner parmi les vivants le nom du défunt. Le premier de ces deux itinéraires rituels nous est connu grâce à un texte de Pausanias, analysé à la fois par Phoebe Giannisi et avant elle par Christian Jacob, qui n'ont peut-être pas insisté tellement sur la dimension rituelle de cette piste. Il s'agit de ce que je pense être le compte-rendu d'un parcours rituel liant dans le culte héroïque des lieux mémoriaux et des sanctuaires d'un seul mouvement progressif qui n'est autre que celui d'un récit mythique. En sortant de Mégalopolis, écrit Pausanias, pour aller à Mécène, quand on a progressé de quelques 7 stades, il y a à gauche de la route un sanctuaire pour des déesses. On appelle les déesses elles-mêmes, mais aussi le territoire alentour du sanctuaire, Maniai, les folles. C'est à mon avis une épiclèse des déesses Euménides. Et l'on dit qu'Oreste, après le meurtre de sa mère, devint fou à cet endroit. Non loin du sanctuaire, il y a une butte de terre de médiocre importance avec pour couronnement un doigt fait de pierre. Et d'ailleurs, cette butte a pour nom Dactylomnema, le monument du doigt. C'est là, selon la tradition, qu'Oreste, ayant perdu la raison, se coupa avec les dents le doigt de l'une de ses mains. À côté de cet endroit s'en trouve un autre appelé Aché, les remèdes, parce que Oreste y trouva la guérison de son mal. On a aménagé là aussi un sanctuaire pour les Euménides. Ces divinités, au moment de faire perdre la raison à Oreste, lui seraient, dit-on, apparues noires. Mais après s'être coupé le doigt avec les dents, il les aurait de nouveau vues blanches et aurait retrouvé ses esprits à ce spectacle. C'est ainsi qu'il offrit un sacrifice expiatoire aux premières pour détourner leur colère et un sacrifice propitiatoire aux secondes, les blanches. L'usage est de sacrifier aux Charites en même temps qu'à elles. À côté de l'endroit dit Aché, il y a un autre sanctuaire, dit Kouraïon, l'endroit de la coupe des cheveux, parce qu'Oreste y coupa sa chevelure lorsqu'il fut revenu à lui. La songline aborigène nous a rendus sensibles à ce genre de cheminement qui, au stade où nous sommes, se passe presque de commentaires. Marcher, c'est se souvenir, dit Valérie de façon succincte. Et cela vaut également pour le deuxième itinéraire rituel sur lequel je voudrais attirer votre attention. Il s'agit de celui indiqué dans la Inscriptio Mnesi Epis sur l'île de Paros. Le scénario du texte remonte vraisemblablement à un poème perdu d'Archiloque lui-même, objet d'un culte héroïque à Paros, à l'Archilocaïon, refondé par un certain Mnésiépès vers 250 avant notre ère. On se représente facilement la célébration du poète parien, mobilisant une procession du lieu dit des prés, mentionné dans l'inscription, jusqu'au rocher lisse, également mentionné, et à l'arrivée, vraisemblablement un sacrifice aux muses à l'endroit de la rencontre entre les déesses et le jeune poète. Ce qui nous laisse avec un parcours rituel encadré du culte héroïque. Et vous voyez sur la photo Jean-Pierre Vernant à côté de cette inscription. C'est une photo provenant des archives Frontesi. Avec mes remerciements. Il y a des années, j'ai répondu à une enquête d'une revue de poésie en Suède. La question était « Qu'est-ce que la poésie pour vous ?» Et j'ai répondu en citant le texte que j'ai à l'esprit maintenant et que je vais lire pour vous cette fois-ci. Voici donc une songline que je persiste à considérer comme primordiale, essentielle dans l'histoire de la poésie et qui n'est pas sans nous faire penser à l'hymne homérique à Hermès, le cadre nocturne en particulier. On raconte qu'Archiloque, lorsqu'il était encore très jeune, fut envoyé par son père Télécyclès dans les champs, plus exactement dans le district appelé Les Prés, afin d'en ramener une vache pour la vendre. S'étant levé très tôt la nuit, en plein clair de lune, il conduisait la vache vers la ville. Lorsqu'il arriva à l'endroit qu'on appelle les rochers lisses, il crut apercevoir un groupe de femmes, pensant qu'elles allaient de leur travail à la ville, il s'approcha et leur adressa des railleries. Les femmes le reçurent avec des plaisanteries et des rires, puis demandèrent s'il ramenait la vache dans le but de la vendre. Lorsqu'il acquiesça, elles répondirent qu'elles étaient prêtes à lui en payer un bon prix. Alors qu'elles prononçaient ces mots, elles disparurent de sa vue, ainsi que la vache. Mais à ses pieds, il vit une lyre. Il perdit alors conscience, mais revint à ses esprits peu après. Il comprit que c'étaient les muses qui s'étaient manifestées et qui lui avaient donné la lyre. Il apprit, la rapporta en ville et raconta à son père ce qui s'était passé. Entendant le récit et voyant la lyre, Télécyclès s'émerveilla. Avec la lecture de cette inscription, nous sommes prêts, je crois, pour la rencontre avec les muses dans le poème déjà annoncé que je vais vous lire maintenant. Ceci, si vous voulez, comme un acroaticon, comme une rétribution d'auditeur à la manière du prétentieux Tersagoras. D'une certaine façon, ainsi qu'on va le découvrir, le poème en question a été le principe organisateur de ces quatre conférences, et cela non seulement parce que l'enfant Hermès y est célébré, C'est un poème écrit dans les années 1980, quand j'habitais l'Est parisien, à Torigny-sur-Marne. À cette époque-là, il y avait toujours, le long des routes communales, les panneaux de signalisation indiquant la possible présence de bovins sur le chemin. Signe irrésistible. Et je me rappelle en particulier les promenades le soir vers la place de la Croix à Carnotin, lieu d'observation pendant la Grande Guerre, avec un panorama magnifique, où ma fille, alors âgée de 7 ou 8 ans, et moi, nous pouvions suivre comment les lampes, l'une après l'autre, s'allumaient à perte de vue, telles des lucioles sur l'immense plaine, avec le tombeau de Peggy au loin. En rentrant à la maison, à l'heure où l'on ferme les volets vers le jardin, on pouvait imaginer les pas immenses à l'horizon d'un dieu qui ne pouvait être autre que Hermès. Hermès passe, disions-nous, à voix basse. Et voici le poème, le fruit de ces promenades vespérales. Hermès Boukolos. Dans l'espoir que notre projet de retraduire l'hymne à Hermès trouve l'appui de l'une des 9 chargées de lyrisme, nous entamons ici, de façon tentative, le transfert de bétail qui caractérise toute création poétique réellement transgressive, une expérience que longtemps nous avons dû remettre à plus tard, puisque notre hardiesse en matière de métaphore ne permettait point un vol de bétail de cette ampleur. Mais voici que soudain, les troupeaux du dieu Hélios, ce robuste capital au mugissement lointain, se sont reproduits à une échelle que nul ne prévoyait et que nous aussi, nous avons saisi le bâton de berger pour révéler le secret de la poésie bucolique. Capable pendant des siècles de veiller de miroitantes lectures. Tout poème est bucolique et l'interprète un voleur de bétail qui, avant de restituer les vaches volées, les fait veiller en cachette, en gardant les veaux pour lui. Assurément, Apollon fait paître les troupeaux de la poésie, mais son intérêt purement acoustique pour les bestiaux, soigneusement clôturés, qui pèsent sur les collines, laisse sans réponse la question du renouveau de la métaphore, aujourd'hui fondamentale pour la subversion poétique. Sur ce point, au contraire, son demi-frère est plus que moderne depuis cette nuit en 1924, où de façon inaperçue, il signa le premier manifeste surréaliste. Qu'est-ce que l'étincelle de Breton, sinon le signe discret montrant qu'Hermès, avec sa baguette, établit le contact entre les deux éléments apparemment incompatibles de l'image. Jamais la pluie d'étincelles du poème n'est-elle aussi belle que la nuit. Et justement, Hermès choisit le plus profond de la nuit pour prendre résolument l'alphabet par les cornes et le pousser à reculons hors de l'étable des formes héritées. 24 vaches, avec autant de types de sabots, trottent rapidement dans la nuit totale de la traduction. Ou exactement comme dans le texte original, il importe que le voleur ait plus d'une corde à sa lyre. Quelques heures plus tôt, il a inventé l'instrument qui fixe l'étendue de notre propre poésie lyrique, rarement limitée à son registre le plus aigu, pourtant si adapté à l'évocation des dieux grecs, là où, à la Winckelmann, ils vivent à 3000 mètres de hauteur. Mais pour son bonheur, l'assembleur de nuées a découvert un gamin qui à jamais va rompre la monotonie de l'Olympe. En bas, sur terre, on le voit en train de mener son bétail dans l'obscurité qui commence lentement à scintiller de lucioles. Seule ponctuation d'un poème d'enfance plein d'étranges rencontres et tellement silencieuse qu'un rire s'entend à des kilomètres. Estes qui rit de l'entreprise de son nouveau-né. Un instant, le monde antique retient son souffle. Seul le trot rapide de 96 petits sabots révèle à une oreille attentive qu'Hermès le transgresseur est en route et que la longue séquence alphabétique de la tradition se modifie dans un ordre invoquant sans cesse le hasard. La tradition peut-elle malgré tout transmettre son sens? Les sabots de notre bétail sont les mêmes que ceux de l'Antiquité, alignant leurs traces dans un vers lyrique qui s'étend de l'Olympe au nord jusqu'en Arcadie au sud, où inaperçu, notre meneur de bœufs franchit la frontière. Cela s'ordonnera comme cela pourra, mais en réalité, cela s'ordonne. De tout son poids, le poème raconte son propre vol de bétail. À l'aube, il ne reste que les traces qu'il a laissées sur le sentier où maintenant un lecteur furieux nous a soudain rattrapés pour reprendre son troupeau. Au bord du profond précipice où tous les poèmes s'arrêtent et tels des bœufs assoiffés finissent par rompre le silence. Je vous remercie.